Pour la troisième partie, donc, comme je le disais un tout petit peu avant la pause, Didier Codorniou, maire de Gruissant depuis pas mal de temps, mais depuis quelques mois ou quelques semaines même peut-être, premier vice-président de la région Occitanie. Alors nous allons évidemment beaucoup parler de cette nouvelle responsabilité. Didier Codorniou, sur ces spéculations politiques là, qui vous concernent forcément en tant que premier vice-président de l'Occitanie, qu'avez-vous à nous déclarer ?
Alors plusieurs éléments, hein, si vous me le permettez. Tout d'abord, c'est toujours très agréable d'être invité chez vous, parce que tous les sujets sont vifs, voire brûlants. Sur la LEGV, il s'agit d'un avis, alors certes, du Conseil d'orientation des infrastructures, donc énième rapport. On constate que les deux projets ne sont pas donc rayés d'un trait de plume, et bien sûr, nous allons continuer notre mobilisation, et la mobilisation va être différente, je le crois. Également, donc, sur la ligne LEGV, vous le savez, une des plus grandes délibérations en termes de poids économique, 400 millions d'euros, avait permis de pouvoir déclencher, je pense, du contournement Nîmes-Montpellier, où la collectivité investit 400 millions d'euros pour justement donc essayer de faciliter, mais comme vous venez de le dire, on est sur des objectifs donc de 2030-2033, donc avec beaucoup d'inquiétudes. Sur la Haute-Garonne et sur le rôle des radicaux, et notamment donc sur mon positionnement, je pense que vous le savez, moi j'ai pris deux engagements où j'étais président de comité de soutien de Jean-François Portarieux dans la Haute-Garonne, qui aujourd'hui est député donc en marche. Également mon ami Alain Perea, que j'ai soutenu sur cette circo. Concernant donc la 8e, les radicaux ne sont pas du tout positionnés et ne vont pas prendre parti à ce combat, si je puis dire, donc politique extrêmement sensible. Bien sûr, également, le rôle que je joue avec et que j'apporte avec Carole Delga me permet aujourd'hui d'être encore plus impliqué à ses côtés. Vous dire aussi que la majorité, donc, elle est consolidé, il faut savoir que dans ce groupe de Nouveau Monde, les élus que vous venez de dire ne votaient pas le budget, se sont abstenus et certains ont voté contre. Donc on ne peut pas considérer qu'ils étaient dans la majorité. Dans la majorité, elle est non seulement donc stable, mais par moments, elle peut être aussi confortable sur des dossiers très structurants, comme vous le savez, donc pas uniquement que la majorité peut voter. Et ce qui est important, c'est toujours sur les dossiers d'avoir une large majorité qui s'exprime. Voilà, donc moi, voilà les quelques mots juste à chaud par rapport à ce que vient de dire mon ami Michel, toujours très agréable, donc avec sa façon très très imagée, mais effectivement qui est très précise sur des éléments qui viennent de dire.
Alors politiquement, puisque nous sommes en plein dans le sujet quand même, vous êtes premier vice-président aujourd'hui, vous étiez, vous me direz si le passé vaut toujours, vous étiez radical de gauche, Didier Codorniou. Aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il est en train d'advenir du parti radical, une fusion de la gauche et de la droite, si je puis dire, ce qui va vous obliger forcément à vous repositionner dans l'avenir. Carole Delga, elle, est plutôt sur un positionnement socialiste, disons, presque pur et dur. Est-ce que vous n'allez pas parfois vous sentir un petit peu écartelé au niveau de la région, dans la mesure où vous devrez forcément travailler avec Carole Delga dans la région, mais politiquement sur des positions, des prises de position dissemblables, voire fort dissemblables?
Alors, deux, trois éléments. Bon, tout d'abord, je pense que vous le savez, donc je reste toujours un homme de gauche. Je crois beaucoup plus aux valeurs que portent les hommes et les femmes et pense depuis toujours qu'il faut savoir s'affranchir des dogmes. Ensuite, concernant la recomposition des partis, vous savez que les partis se recomposent. Par moments avec grandes difficultés, tous ne le sont pas encore. Et nous, au niveau du Parti radical de gauche, enfin, qui est le mouvement donc radical, social et démocrate, et libéral, on se rassemble. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur les valeurs de la République, de la laïcité, de la solidarité et de l'Europe, nous faisons confiance aux deux présidents. Je pense bien sûr à Sylvia Pinel, Daniel et à Laurent Hérard, qui ont réussi finalement cette symbiose de réunifier le parti le plus ancien de France. Et aujourd'hui, nous sommes de la consolidation, si je puis dire. Concernant votre question, alors effectivement, nous sommes donc des alliés fidèles donc du Parti Socialiste, notamment de la présidente Carole Delga, dans cette majorité. Donc nous sommes un nombre donc qui permet bien sûr non seulement de stabiliser, mais de conforter les politiques portées ensemble donc sur l'unité de la gauche, mais également le projet ambitieux que porte la présidente depuis le début. Et l'exercice qui sera pas forcément difficile, c'est de voir comment va se reconstruire, recomposer les partis. Le Parti Socialiste va être recomposé à partir du mois d'avril. Nous allons voir quelles seront les lignes qui seront donc portées par le Parti Socialiste. Mais nous, nous sommes dans notre place aujourd'hui, où on occupe, si on peut dire, le centre droit, le centre gauche. Et moi, c'est un mouvement radical aujourd'hui qui me va très très bien.
Bon, alors Didier Codorniou, nous sommes dans la politique politicienne, la politique des partis, et on y reste. On va changer un petit instant de territoire. Après la région, revenons sur l'agglo. Alors là-dessus, Michel va poser la question.
Oui, Jean-Claude, Didier. Lors des dernières sessions de l'agglo, deux votes ont été demandés aux élus. Une des dernières consistait à nommer un de tes proches, je te tutoie, Édouard Rocher, le maire de Courson, en fait, dans un syndicat, en fait, je rappelle qu'il a failli prendre le bouillon, si je puis dire. C'est un syndicat qui s'occupe d'eau, justement, en fait, en tout cas de gestion des inondations, car à deux ou après, il se retrouvait effectivement battu. Et quant à son suppléant, il a été, lui, purement et simplement éjecté au profit d'un opposant au propre Édouard Rocher. Deuxième élection, ce qui a entraîné effectivement une réunion du groupe dans lequel, pour atténuer un petit peu les tensions, Basco a dit « Je ne suis plus candidat à rien ». Donc je ne serai plus ni maire de Narbonne, ni président de l'agglo.
Voilà. Alors, ce qui m'amène effectivement à la question suivante.
Mais dans cette recomposition en cours sur la Narbonnaise, car de fait, bon, le Parti Socialiste est en grande difficulté, et comme le groupe, enfin, des maires marcheurs, en fait, radicaux marcheurs, en fait, est quand même relativement important, comment, en fait, ce groupe envisage-t-il la suite, et notamment dans ses rapports avec le mouvement En Marche et les futures élections de Narbonne?
Alors, Didier Codorniou.
Oui, alors c'est bien de rappeler les deux épisodes, voire les trois épisodes. Le premier épisode, c'est très rapidement donc l'affaire GEMAPI, donc la compétence transférée donc liée à la loi NOTRe sur les problèmes donc liés aux inondations. GEMAPI donc Rocher Édouard. Alors c'était très très surprenant et regrettable que la majorité n'ait pas été unie autour du président Jacques Bascou, puisque donc c'est sur bien sûr proposition. Et Édouard a eu la sagesse et l'intelligence, si je puis dire, puisqu'il avait même envisagé de sortir de la présidence du groupe. Mmh. Et je considère qu'il a eu cette sagesse et la responsabilité politique. Ensuite, deuxième épisode que vous avez aussi parlé, pas maintenant sur votre question, c'est la vice-présidente de Michel Py, qui également donc est un peu dans la continuité, qui est une surproposition de Jacques Bascou, au-delà de l'homme. Moi, je pense que la réflexion sur cette présidence, c'est d'avoir une vision sur le territoire. Je vous rappelle qu'il nous reste 2 ans et que l'agglomération doit avancer et mener à bien ses projets. Et puis le troisième point, donc c'est celui que vous venez de dire, c'est qu'il restait presque un peu inaperçu, ou du moins on l'a pas trop commenté, c'est la non-candidature en 2020 de Jacques Bascou, qui, je l'espère, donc apportera, et c'est une réponse un peu à votre question, apportera de la sérénité au sein de notre assemblée, si je puis dire, donc majorité et assemblée. Et j'ai toujours pensé que dans le cadre de l'agglomération, il fallait penser collectif avec ces 37 communes, et que également le rôle de Narbonne doit être pris aussi en considération. Et à travers votre question, J'ai toujours considéré que sur une interco, puisque bon là, sur les deux années, je pense pas qu'il y ait de grands mouvements, mais j'ai toujours pensé que il était aussi bien que le président soit pas forcément issu de la ville-centre, qui permettait donc que les équilibres puissent mieux se faire et que les messages politiques, si je puis dire, puissent mieux passer. Et c'est pour ça que je crois qu'il est temps aujourd'hui de, je crois que Jacques Bascou sera votre invité, donc prochainement.
La prochaine fois.
La question, vous la lui poserez, il répondra, et je n'ai pas à répondre à sa place. Mais je crois qu'aujourd'hui, donc, ce qui est important, c'est la stabilité de notre majorité, de l'Assemblée, pour que les populations s'y retrouvent. Et voilà, donc c'est un peu le vœu que je peux faire aujourd'hui pour les prochaines années.
Mais ceci, forcément, va déclencher au minimum, sinon déchaîner, des ambitions légitimes démocratiquement, mais déchaîner des ambitions, forcément.
Oui, mais vous savez, sur les ambitions, et c'est bien d'être ambitieux quand on est élu sur un territoire, qu'on soit élu d'une commune, d'une intercommunalité ou d'un périmètre plus grand comme la région, ça permet de faire avancer notre territoire. Mais je crois que chaque chose en son temps. Il y a toujours des élections, il y a donc des élections, il faut attendre que le peuple se prononce, et puis ensuite, donc, bien sûr, il y aura des négociations, des transactions, mais ce qui est important, c'est d'avoir une vision très très précise pour nos populations qui sont exigeantes, hein, donc, le politique travaille principalement pour le bien-être et une façon d'art de vivre avec des modèles économiques pour que le territoire soit complètement boosté.
Oui, une remarque, Michel.
Non, mais simplement, je retiens ce que vient de dire à l'instant Didier Caudrogneau, à savoir que il a bien de définir le profil idéal du futur président de l'agglo, quoi. Ça ne peut pas être le maire de Narbonne, le maire d'une grande ville, ce serait pour lui le maire d'une petite commune, et d'autre part, un maire d'une petite commune en capacité de rassemblement le plus large. Donc on a le profil, effectivement, du futur, de son point de vue.
Petite point de vue de Michel, point de vue de Didier.
Petite ou moyenne commune.
Une petite incursion quand même dans votre commune, Didier Caudrogneau, puis dans le temps qui nous reste, bien entendu, on reviendra sur les projets du territoire de l'Occitanie, mais vous faites partie des communes Gruissant qui a des difficultés à construire des logements sociaux depuis fort longtemps. Vous êtes en dessous du seuil réglementaire, ce qui fait que vous faites partie des communes qui se font recadrer régulièrement par l'État. Vous avez aussi la difficulté que lorsque vous essayez d'en construire, vous avez des oppositions. Et je crois récemment qu'il y a eu une réunion sur le lotissement de Lassagne qui fait partie justement de ces exemples où vous voulez construire des logements sociaux, mais on vous empêche de le faire parce qu'il y a des recours. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là?
Oui, c'est un sujet.
Comment vous vous en sortez, Jean?
C'est un sujet sensible. Mais en fait, le problème de Gruissant, c'est que effectivement, dès qu'il y a des projets de logement social, il y a des recours, et que je considère des recours abusifs, et cela dure depuis un certain nombre d'années, d'où le fait que nous soyons carencés. Le préfet de département l'a bien compris, d'ailleurs, sur la sanction financière, donc qui était pratiquement à 150%, et passé à 100%, ce qui fait donc ce qui nous pénalise quand même fortement, puisque nous payons 110 000 euros donc à moins sur notre budget. Là aujourd'hui, donc deux recours aujourd'hui sont gagnés au tribunal administratif qui vont nous permettre de pouvoir réaliser les deux opérations, donc une opération de 30 logements, une autre opération de 18 logements. Et puis effectivement, il y a ce dossier qui est un dossier majeur que je porte depuis une dizaine d'années, qui est un écoquartier et qui donc ce qui devrait d'ailleurs être le premier écoquartier du département de l'Aude, avec donc 800 logements qui se feront donc sous une période d'une dizaine d'années avec trois phases, et qui devront permettre et qui devraient permettre bien sûr de rattraper le retard, si je puis dire, puisque nous aurons un taux de 35% de logement social et du logement accessible avec de l'accession donc à la propriété, également du privatif, du collectif, bref, un écoquartier qui ressemblera donc à l'esprit de Gruissant, tout en faisant très attention, bien sûr, de ne pas perdre notre âme, de garder notre âme. Et c'est pour ça que ce dossier, il est extrêmement important pour le paysage de notre environnement, je pourrais dire même du Grand Narbonne, qui devrait aussi impacter, donc, sur le plan de la démographie, mais également sur le plan de l'attractivité touristique et économique, en plus sur notre territoire. Donc c'est un projet extrêmement majeur que portent les élus de Gruissant, et qui, je rappelle, donc, les propriétaires, puisqu'il y a 123 propriétaires. Nous avons fait, donc, bien sûr, un référendum dans le cadre, donc, des propriétaires. 76% des propriétaires sont très favorables pour la construction de cet écoquartier.
Donc, malgré ces difficultés, ce projet avance.
Ce projet avance. Il devrait être abouti, puisque nous allons donc, désigner l'aménageur dans quelques semaines. Donc, on est sur l'objectif de fin 2019, tout début de 2020 sur la première phase.
Et il devrait vous résoudre donc à terme le problème du manque de logement social sur Gruissant.
Oui, parce qu'en fait nous sommes sur une période triennale, donc en termes de production. Nous avons aussi sur des dents creuses identifiées avec les bailleurs sociaux un certain nombre de productions. Nous aurons du logement social. Enfin, nous, l'idée c'était de ne pas avoir uniquement du logement social sur un secteur précis. Nous en aurons donc à Mataille. Nous en aurons aux Aiguilles, nous serons à la plage des Chalets, au centre du village à côté de la crèche et bien sûr à l'écoquartier, de façon que la mixité sociale puisse donc bien fonctionner à Gruissant.
Alors Didier Collorgnou, pour conclure cette émission, on va revenir quand même sur votre casquette de vice-président, premier vice-président de l'Occitanie. Vous disiez tout à l'heure, bon, on a évoqué les transports et la LGV, les transports faisant partie des compétences essentielles de la région. En quelques mots, quels sont les axes essentiels justement sur lesquels maintenant, dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, la région Occitanie va porter ses efforts ?
Un gros effort sur l'éducation, sur la formation, sur la mobilité, et puis donc sur les PME et sur les PMI, sur la volonté donc de pouvoir travailler aussi sur les circuits courts dans l'alimentation, puisque c'est une priorité donc que la présidente Carole Delga veut faire.
Compétence de la région, ça.
Alors c'est une compétence liée par le biais des lycées, donc par rapport au nombre de repas fournis au nombre de lycées. Et l'idée, c'est de pouvoir favoriser l'agriculture, donc, et de ne plus importer plus de 90% aujourd'hui. Et en fait, notre objectif, c'est de se rapprocher de 50% de produits fabriqués et proposés dans notre territoire. Et également, bien sûr, tout ce qui touche les infrastructures portuaires, toute la dynamique liée avec l'aménagement du territoire et également des nouvelles politiques qui sont développées depuis quelques mois, qui vont être renforcés pour que les 3,5 milliards de notre budget, donc pratiquement plus de 1,2 milliard d'investissement par an, puissent accompagner donc toutes ces infrastructures, toutes ces personnes, toutes ces collectivités qui ont besoin de cette puissance régionale, un chef de file donc sur le développement économique. Donc des enjeux majeurs juste un élément également sur le plan littoral 21 que je pilote, donc je vous rappelle que nous avions voté 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, pratiquement 250 millions donc vont être investis, 220 millions sur le port de Port-la-Nouvelle cette année 2018. Et ce sont des dossiers extrêmement impactants sur notre territoire, et la recherche et l'innovation. Là aussi, donc sur la recherche, nous essayons d'aider encore plus les start-up, parce qu'en même temps, c'est derrière, ça génère de l'emploi et également donc de cette intelligence artificielle qui va nous permettre donc de pouvoir avoir des maillages complètement adéquats sur notre territoire. Et des énergies, donc on est sur des énergies propres et l'hydrogène demain sera une nouvelle énergie fabriquée donc et proposée sur notre territoire. territoire, puisque dans le 81, nous proposons déjà et nous fabriquons déjà cette énergie, qui pourrait donc servir dans le cadre de la mobilité et des déplacements urbains, et également donc au niveau de notre littoral, sur des connexions de villes portuaires. Voilà, donc c'est tous ces axes de travail qui sont mis en contribution.
Alors, un tout dernier mot sur l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis en donnant quelques exemples? Parce que ça reste abstrait pour nous.
Oui, nous avons deux plateformes donc aéroportuaires sur Toulouse et sur Tarbes, où nous avons donc des navettes qui se déplacent par ce carburant. Et il y a aussi des expérimentations sur des avions qui demain pourraient donc avoir ce nouveau carburant. Et l'idée de l'hydrogène, ça se passe dans d'autres régions. Je pense notamment à La Rochelle, où les bus circulent à l'hydrogène. Et notre volonté, c'est de faire de notre région une région énergie positive, l'objectif en 2050. Donc c'est un tout, hein. On est sur donc l'hydrogène, on est sur l'éolien flottant, on est sur le photovoltaïque, on est sur la méthanisation. Donc en fait, tous ces secteurs vont être développés. Et sur l'hydrogène, c'est d'avoir des territoires expérimentaux. Le Grand Narbonne pourrait d'ailleurs être ce territoire pour expérimenter ces déplacements doux. Je pense notamment au vélo, avec des recherches hydrogène qui pourraient s'appliquer dès 2020. 2020, dans les deux prochaines années.
Eh bien, merci Didier Collorgnou. C'est là-dessus que nous allons conclure. Si je puis me permettre cette dernière formule, espérons que l'hydrogène va apporter de l'oxygène à la région.
C'est bonne formule.
Merci. Merci encore, en tout cas, d'être venu à ce micro. Le prochain invité, on l'a évoqué, ça sera Jacques Bascou, lui-même, qui répondra à une question qui est déjà toute prête. Après quoi, nous recevrons le maire de Fleury, Guy Sier, et ensuite la conseillère départementale, Madame Hélène Sandranier. Voilà quelques noms pour les prochaines émissions. Merci et à la semaine prochaine.
Très bien, à bientôt.